Édouard Dupénoit nous a rejoint dans le studio 31 après une conférence de Munich sur la sécurité tumultueuse ce week-end, marquée notamment par des passes d'armes. Sylvie Goulard, ancienne députée européenne, enseignante à l'université Bocconi de Milan, est votre invitée, Édouard.
Sylvie Goulard, bonjour.
Bonjour.
J'aimerais revenir quelques jours avant cette conférence de Munich qui s'est déroulée ce week-end, puisque dès le mi-temps de la semaine dernière, on apprenait que le président américain Donald Trump s'était entretenu avec Vladimir Poutine, son homologue russe, pour lancer des pourparlers de paix autour de l'Ukraine, dont à l'heure actuelle les Européens semblent exclus. Après cet entretien et après cette conférence de Munich ce week-end, Sylvie Goulard, est-ce que l'Europe se réveille avec la gueule de bois ?
J'espère qu'elle se réveille surtout tout court, parce qu'effectivement, ce que les autorités américaines ont dit est préoccupant, mais pas non plus totalement surprenant. Ça fait des années que les administrations démocrates soulignaient le besoin pour l'Europe de faire plus d'efforts pour sa propre défense. Et quand je dis efforts, je dis pas seulement un pourcentage du PNB comme on entend tout le temps. C'est une sorte de préparation mentale à devenir totalement adulte et à être capable de se défendre collectivement, alors que la guerre est déjà sur le territoire européen.
Vous avez un verdict déjà sévère. Vous dites vous espérez que l'Europe se réveille tout court. Pour vous, ça fait des années, si ce n'est des décennies, qu'elle est endormie ?
Sur le plan de la politique étrangère et de la défense, sans faire de mauvaises polémiques, et même si beaucoup de gens y travaillent activement, je crois que l'Europe ne pèse pas son poids dans le monde et qu'elle ne s'est pas organisée pour peser. Lorsque j'étais sous-gouverneur de la Banque de France, je vais vous donner un exemple tout bête. Dans la filière finance, où allaient les gouverneurs et les ministres des finances, pour la Chine, il y avait deux représentants. Pour les États-Unis, il y avait deux représentants. Pour l'Arabie Saoudite, pour l'Inde, pour tous les grands pays du monde, deux représentants. Savez-vous combien il y avait de représentants de l'Union européenne? 11. Plusieurs ministres des Finances, plusieurs gouverneurs de banques centrales, la présidente de la BCE, la présidente tournante de l'Union, la Commission européenne. Donc si nous voulons peser, nous pouvons nous organiser pour peser plus.
Manière de souligner que l'Europe n'a jamais parlé d'une seule voix?
Et pourquoi on parle d'une seule voix? Il faut qu'il y en ait qui se taisent. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut se partager les tâches de manière équitable, avec des rotations, avec des, en tenant compte des contributions de chacun. Mais très sincèrement, le monde a changé et tous les pays jeunes et dynamiques, parfois agressifs qui nous entourent, ne vont pas tolérer une horde d'Européens. Ils voudront avoir des interlocuteurs extrêmement identifiés et capables ensuite, par exemple, s'agissant de l'Ukraine, d'aligner des garanties de sécurité. J'étais dans la salle à Munich, j'y suis encore, quand vous entendez le discours du vice-président américain, mais quand vous entendez aussi et surtout les appels à l'aide de M. Zelensky qui nous dit que cette guerre n'est pas la guerre de l'Ukraine, mais que c'est la guerre de la Russie contre l'Europe, la Russie de Vladimir Poutine, évidemment, pas tous les Russes, eh bien, je crois qu'il faut entendre.
Mais alors, vous parlez du discours du vice-président américain qui, effectivement, a sidéré une bonne partie de l'assistance. Les images sont éloquentes quand on voit les quelques applaudissements polis qui concluent ce discours, où il estime notamment que le plus grand danger à ses yeux pour l'Union européenne, ce ne sont ni la Chine, ni la Russie, mais l'abandon de certaines de ses libertés fondamentales. Est-ce que, pour vous, c'est un électrochoc qui est de nature à réveiller l'Europe ou à la diviser davantage?
Non, ce qu'on a senti dans les couloirs et dans les discussions, c'était vraiment une certaine gravité que je n'avais pas perçue jusqu'à présent et une volonté de riposte. Et encore une fois, je crois qu'il faut que nous fassions ce que nous croyons juste et ce que nous estimons pouvoir faire. Et nous avons construit des choses en Europe. Quand nous avons fait une monnaie unique, beaucoup de gens nous riaient au nez, nous y sommes parvenus, nous l'avons défendu, y compris dans la crise. Donc nous sommes capables de faire des choses à condition de s'engager dans un travail, et j'insiste sur ce mot, un travail, en écoutant les opinions, en écoutant les pays qui sont en première ligne. C'était très intéressant de discuter avec les Baltes, les Polonais, tous ceux qui sont en première ligne et parfois d'ailleurs envahis, comme les Moldaves. La menace russe est réelle. La France dispose d'un certain nombre d'atouts, par exemple sa force de frappe. Elle a besoin de travailler plus avec ses partenaires européens. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que le président de la République a réuni un sommet aujourd'hui.
Justement, j'allais venir à cette réunion, cette convocation dont on a appris la tenue hier en milieu d'après-midi, avec une demi-douzaine des homologues européens d'Emmanuel Macron, mais aussi le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne ou encore le secrétaire général de l'OTAN qui sont attendus à Paris. Jean-Noël Barrot a essayé de déminer les questions avant l'heure en parlant d'une réunion habituelle sur un format qui se tenait souvent. On a quand même un peu l'impression d'une réunion alerte rouge.
Écoutez, la réunion se tient, c'est l'essentiel. Le dialogue, effectivement, va réunir un certain nombre de pays et les représentants des institutions, ce qui est important aussi. C'est trop tôt pour dire ce qu'il en sortira. L'Allemagne est dans la dernière ligne droite de la campagne électorale pour désigner le futur chancelier. Donc, c'est la dernière semaine avant l'élection. C'est pas évident pour nos amis allemands. Mais j'ai été très frappée par la réaction des autorités allemandes à une ingérence d'abord politique dans le débat intérieur allemand et une leçon basée très largement sur des informations fausses du vice-président américain.
Donc, vous faites référence à la rencontre, à l'entretien que J.D. Vance a eu avec Alice Weidel de l'AFD, l'Alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite.
Le vice-président américain a eu ce rendez-vous et dans son discours, il a aussi fait des allusions à des déficiences de nos politiques. Encore une fois, on est dans des démocraties, contrairement à ce qu'il dit, donc il peut dire effectivement ce qu'il veut. Mais il a indiqué, il a donné des exemples qui pour certains étaient faux d'atteinte à la liberté dans nos pays. Je crois qu'il faut que nous, comme l'ont fait les autorités allemandes, nous disions simplement que tout ceci n'est pas acceptable et que donc nous en tirerons toutes les conséquences. Et effectivement, l'interférence dans un processus électoral, ça n'est pas très démocratique non plus. Surtout quand ça se fait avec des moyens de type de ceux dont disposent les détenteurs de réseaux sociaux.
Alors, revenons-en à cette réunion qui se tient cet après-midi à Paris. On a l'impression, effectivement. Alors, pour citer une fois encore Jean-Noël Barrot, il parle d'un vent d'unité qui souffle sur l'Europe comme il n'en a pas connu depuis la période du coronavirus. Le Premier ministre britannique affirme dans la presse que l'envoi de troupes britanniques sur le territoire ukrainien n'est plus exclu. On a l'impression, en tout cas, qu'à l'ouest de l'Europe. Cette déclaration à l'emporte-pièce des États-Unis recimente une certaine unité qui était perdue. Est-ce que vous pensez que ça va être le cas aussi à l'Est? Vous évoquiez les pays baltes, les plus exposés à une éventuelle menace russe.
La situation est préoccupante parce qu'effectivement, pour un certain nombre de pays européens, et même en partie pour la France, nous appartenons à l'OTAN et la protection américaine. Au-delà de tous les traités qu'on signe, la réalité de la puissance militaire américaine qui, je le rappelle, dépense près de 900 milliards par an pour sa défense, était la raison pour laquelle, avec la construction européenne, nous avons vécu en paix. Pour les pays d'Europe centrale et orientale, pour les Baltes, pour la Pologne, un éventuel retrait des États-Unis, il faut rester calme dans son évaluation, pour l'instant il n'est pas sur la table, marquerait un changement considérable. Je crois qu'il faut que nous prenions tous nos responsabilités, que nous fassions comprendre aux populations aussi qu'il s'agit de préserver la liberté, de préserver la paix. L'Europe n'a jamais eu des visées impérialistes. L'Ukraine a été agressée, contrairement au droit international, et les agressions pourraient avoir lieu ailleurs, le cas échéant, si nous ne prenons pas des mesures pour nous défendre et surtout dissuader ceux qui voudraient nous agresser.
Sylvie Goulard, je vous remercie d'avoir été l'invitée de RFI ce matin, de nous avoir accordé quelques minutes. Je rappelle que vous êtes ancienne députée européenne, enseignante à l'université Bocconi de Milan et que depuis le mois de décembre, vous faites partie du conseil de la fondation de cette conférence de Munich sur la sécurité. Merci beaucoup.
Entretien Merci. Entre Sylvie Goulard et Édouard Dupénoit à retrouver sur notre site internet RFI.fr et sur notre application RFI Pure Radio.